Oui, nous sommes heureux de nous mettre encore à l'écoute de la parole de Dieu. Pâques est tout proche. Nous avons toute la semaine pour relire des textes pendant cette semaine appelée Semaine Sainte. Une excellente occasion pour relire les nombreux textes de l'Évangile qui nous présentent le cœur de la mission de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, ses enseignements. Dans la ligne du thème de notre culte, faire le bien, on m'a suggéré de réfléchir au bien que nous pouvons faire, en particulier au pourquoi, finalement pourquoi faire du bien. Et je vous propose de relire ce matin un texte extraordinaire qui nous enseigne que notre Seigneur et Sauveur est venu pour aimer et qu'il a mis le comble à son amour en servant, pour faire le bien. Jean 13, quelques heures avant son arrestation, quelques heures avant sa crucifixion, quelques jours avant sa résurrection. C'est le dernier jour de la fête de Pâques, avant la fête de Pâques. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève. Il enlève son manteau de dessus, il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître, seigneur, et vous avez raison. Je suis maître et seigneur. Alors si moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le. » Vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la recevoir, à l'écouter attentivement. Nous voulons nous mettre à ton écoute et nous voulons que, par ta parole, tu continues à nous transformer dans ta grâce. Amen. Je vous propose de reparcourir ce récit bien connu, repérer quelques enseignements importants et troisièmement, regarder tout particulièrement ce texte sous l'angle de la question « Mais pourquoi faire le bien ?» Le récit. Jésus sait que l'heure est venue, traduction moderne que je viens d'utiliser, que le grand moment est venu, littéralement l'heure. Il y a plusieurs textes dans l'Évangile avant cela qui nous disent que son heure n'était pas venue. Maintenant, il sait que l'heure est venue, c'est-à-dire, il sait qu'il va énormément souffrir. Le texte nous dit qu'il sait aussi que son Père est avec lui. Et l'équilibre est extrêmement important. Il sait que la route va être difficile. Nous savons qu'il y a des choses difficiles que nous pouvons encore croiser. Mais il sait aussi que son Père est avec lui. Et l'équilibre est extrêmement important. Jésus sait. Deuxièmement, Jésus agit. L'amour conduit à l'action. Nous sommes complètement dans un des thèmes importants de la lettre de Jacques que nous relisons pendant cette année scolaire. La foi sans les œuvres est morte. Et le texte que je viens de vous relire commence ainsi. Jésus a mis le comble à son amour. Et il a agi. Les discours sans pratique ne sont que du blabla. Sans force, sans valeur, sans saveur, sans couleur. Que fait Jésus ? Il faut bien qu'on comprenne ce qu'il fait puisqu'on doit faire pareil. Il se lève et il va aller, après avoir pris une bassine et un linge, d'un disciple à l'autre pour laver les pieds à chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qui devait être fait à l'époque. Et quelqu'un était prévu pour cela. En général, le dernier des esclaves. Et si il ne pouvait pas, on remontait. Mais certains textes nous disent que ça ne pouvait pas être un juif, normalement. Dans la culture, en dehors de la culture romaine, c'était le dernier des esclaves et c'était quelqu'un qui était vraiment mal considéré. Et Jésus va faire ce qui devait être fait par le dernier des esclaves. Incroyable. Pierre, toujours très vif, va réagir. Double refus. Non, Seigneur. Le Seigneur dit oui. Non, répond Pierre. Et puis le Seigneur lui dit, mais si je ne te lave pas, tu ne pourras pas être avec moi. Et là, je vous suggère de remarquer à quel point l'attitude de Pierre est exemplaire, celui qui nous fait sourire. Et on nous a posé deux questions ce matin déjà. Je vous en pose une troisième et je vous laisse quelques secondes seulement. Comment réagissez-vous devant ce qui peut abîmer votre relation avec Dieu ? Je ramasse ma feuille pendant que vous réfléchissez. Comment réagissons-nous devant ce qui peut abîmer notre relation avec Dieu ? Je nous souhaite, et ce n'est hélas pas toujours le cas dans ma vie, je nous souhaite de partir en courant. Comme Pierre ici, qui part à l'autre extrême et qui nous fait à nouveau sourire, mais sourions avec beaucoup de piété. Et Pierre dit, mais alors pas seulement les pieds, tellement il a peur d'être séparé de son maître. Les disciples, que font-ils ? Je vous ai préparé une diapo, elle est là. Rien. Il est probable qu'il y a eu tout à coup un grand silence. Avant, il parlait. Vous vous souvenez de quoi il parlait ? Il se demandait qui était le plus beau, le plus grand, dit le texte. Et ils étaient tellement occupés à faire cela qu'aucun d'eux n'a pensé à faire ce que l'un d'eux aurait dû se dévouer à faire. Jésus va ensuite s'asseoir. Deuxième partie, quels sont les enseignements de ce texte ? J'en ai repéré quatre. Même si ce texte met l'accent sur la mise en pratique, j'ai repéré en première leçon, puisque Jésus s'assied pour leur parler, l'importance, la nécessité de la parole et de l'enseignement qui vient d'en haut. Parce que si Jésus n'avait pas expliqué, nous ne pourrions pas comprendre ce que nous devons comprendre. Jésus enseigne et nous devons écouter. Nous avons la parole aujourd'hui, nous devons la lire. Nous avons la Bible, ne nous en privons pas. Deuxième leçon, en regardant Jésus, je suis extrêmement marqué par la douceur de Jésus. Et je vous propose d'en faire une des quatre leçons. Savoir reprendre les autres avec une telle douceur. Il aurait pu leur tomber dessus, comme on dit. Il leur dit simplement, « Vous avez vu ce que j'ai fait ? Faites-le. » Rien dans le texte ne correspond à des longueurs où Jésus les ferait réfléchir sur la gravité de leur attitude et sur la lourdeur de l'ambiance et de la situation. Il s'assied et leur dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait ? Faites-le. » Que le Seigneur nous préserve d'enfoncer le clou, comme on dit quelquefois, devant quelqu'un qui n'est pas en forme, quelqu'un qui n'a pas pris les bonnes décisions. Dans beaucoup de cas, il ou elle le sait. Et que Dieu nous aide à passer aux conseils positifs et à ne pas perdre du temps avec ce qui peut être quelquefois bien douloureux inutilement pour l'autre. Troisième leçon, bien sûr, l'importance de la mise en pratique. À nous maintenant, versets 14 et 15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. Vous avez entendu les vous ? À nous. Le Seigneur nous a donné un exemple de mise en pratique pour que nous entendions l'importance de la mise en pratique et pour qu'en ayant bien entendu, nous mettions nous-mêmes en pratique. Et Jésus répond d'avance à toutes nos excuses du style « Je ne sais rien faire, ce n'est pas mon tour, ce n'est pas à moi de le faire, je l'ai déjà fait, etc., etc. » Avec cet exemple très simple et une lecture que je vous propose non littéraliste, le Seigneur nous enseigne à accepter de faire ce qui n'est pas toujours agréable, ce qui n'est peut-être pas à notre tour de faire, mais qu'il est important de faire pour faire du bien. J'ai dit, je vous propose une lecture non littéraliste parce que c'est un des textes où Jésus nous dit beaucoup, faites ce que je vous ai fait. Est-ce que vous le faites ? Probablement pas littéralement. Mais ce serait, je prétends, que ce serait un peu trop facile de ne le faire que littéralement. Et je veux être prêt à vous laver les pieds littéralement. Mais je veux être prêt, et je suis convaincu que c'est beaucoup plus difficile, à vous laver les pieds au sens symbolique que nous laisse ce texte. C'est-à-dire à faire tout ce qui me coûte particulièrement, qui n'est peut-être pas difficile à faire, mais que je n'ai pas trop envie de faire en ce moment-là, à cet endroit-là, un esprit de service implacable. Voilà ce que m'enseigne Jean 13. Du concret, très concret. Faites ce que je vous ai fait. Soyez prêts à vous laver les pieds. Certains diraient, dans une expression que j'entends quelquefois, « Plus concret, tu meurs ». On ne peut pas être plus concret que cela. Jésus n'a pas expliqué en long et en large qu'il faut absolument mettre en pratique ce conseil. Il s'est levé et il est allé de l'un à l'autre leur laver les pieds. Quatrième leçon, le besoin de purification. J'ai à cœur de glisser quand même cette leçon dans un texte que je médite ce matin avec vous, surtout sous l'angle l'importance de la mise en pratique, mais quand même, il me semble qu'on ne peut pas méditer ce texte sans entendre la réponse de Jésus à Pierre et entendre l'importance de la purification dans nos vies. Sinon, ce texte va être trop un texte de morale, nous disant qu'il faut faire et faire et faire et mettre en pratique. Si c'est par amour, on est bon. Mais ce texte nous dit aussi et de façon centrale que Jésus est là pour nous purifier. Il y a des choses que nous pouvons faire, au moins 5 que nous avons citées tout à l'heure. Mais nous avons énormément besoin, pour faire le bien et pour bien vivre, d'être purifiés. Jésus a répondu à Pierre, « Si je ne te lave, tu ne peux pas être avec moi. » C'est assez évident qu'une fois de plus, Jésus a changé de registre. Vous êtes d'accord ? Il ne parle pas de simplement laver les pieds physiquement à Pierre. Si nous ne sommes pas lavés, si nous ne sommes pas purifiés, nous ne pourrons pas être avec lui. Jésus a pris la place du dernier des esclaves ce soir-là pour que le repas se passe bien et pour que les uns puissent être avec les autres. Dans quelques heures, il va prendre la place du dernier des condamnés pour que nous puissions être purifiés. Entendons, avec ces textes bien connus, l'importance de la purification. Et demandons à Dieu au début de cette journée, au début de cette semaine, et régulièrement, de nous purifier. Parce qu'il a tout accompli pour le faire. Mais la troisième des 4 leçons était celle sur laquelle nous voulons encore nous concentrer quelques minutes. Il nous faut, nous dit ce texte, nous retrousser les manches. Et il nous faut faire le bien. Pourquoi ? Parce que Jean-Marc nous l'a dit ce matin ? Oui, mais pas seulement. Qu'est-ce que l'on peut trouver comme fondement dans ce texte pour faire le bien ? Je vous propose 3 points qu'on pourrait développer en plusieurs, mais je les ai regroupés en 3. Tout d'abord parce que Jésus nous a laissé un exemple. Ça fait 15 minutes qu'on en parle. Et on est bien coquins, le mot est gentil. Si quelqu'un comme Jésus nous laisse un exemple et qu'on fait comme si rien ne s'était passé. Si quelqu'un de très grand se déplace pour nous apprendre à faire quelque chose, pour nous donner un exemple, on est drôlement tordu si on regarde ailleurs. Pourquoi faire le bien ? Tout d'abord, parce que celui qui est venu jusqu'à nous pour être l'homme parfait, l'homme parfaitement sage, l'homme parfaitement juste, l'homme parfaitement bon, nous a laissé un exemple, et c'est impensable que nous n'ayons pas à cœur de suivre son exemple. Deuxième grande raison, la plus claire dans le texte, au verset 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux. » Et on est une bonne centaine ce matin à le savoir. « Si vous le faites, si vous vous retroussez les manches, sinon, par expérience, nous serons encore un peu plus malheureux que si on n'avait pas su. » Certains voient de quoi je parle ? Oui. Si on sait quelque chose qui est bon, si on ne le met pas en pratique, on est encore un millimètre ou plus malheureux que si on ne l'avait même pas su. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous vous leviez, que vous vous bougiez et que vous mettiez en pratique dans vos vies ce que vous savez. Se lever, se bouger est à nouveau symbolique. Parce que agir pour l'autre, ce n'est pas forcément les choses les plus visibles, mais c'est agir pour l'autre. Une grande raison, donc, c'est notre bonheur. Bonheur lié à l'amour. Et j'en ai fait qu'un seul point, mais on aurait facilement pu en faire 2. Vous pouvez en faire 2 si vous voulez dans votre résumé, dans vos têtes. Premièrement, parce que le Seigneur l'a fait. Deuxièmement, pour notre bonheur. Deuxièmement, bis, par amour. Parce que l'amour conduit au bonheur. Parce que le bonheur, c'est d'aimer. Verset 1. Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima à l'extrême. Pourquoi faire du bien ? Parce que aimer, c'est ça. Et parce que tout ce que Dieu veut pour nous, tout ce que Dieu nous souhaite, tout ce que Dieu a préparé pour nous, se résume en « tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain ». Pourquoi faire le bien ? Parce que c'est mettre en pratique « tu aimeras ton prochain ». Et aussi « tu aimeras Dieu ». Et c'est quand même un des textes, parmi d'autres, qui doit nous aider à être très loin du légalisme. Pourquoi faire le bien ? Pour être heureux. On est loin d'une liste à cocher. On est loin d'une culpabilité à calmer. On est loin d'une image à soigner. Pourquoi faire le bien ? Pour être heureux. Parce que l'amour rend heureux. Et que l'amour conduit à l'action. Et que le Seigneur nous a donné cet exemple. Troisièmement, pourquoi faire le bien ? Et là, je vais aller un peu plus loin dans le chapitre 13, un verset que je n'ai pas lu. Parce qu'en faisant le bien et en nous aimant vraiment, nous faisons connaître le Seigneur. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a quelques dimanches, on a fait le tour avec reconnaissance de plusieurs activités de notre Église qui nous permettent de grandir dans la connaissance de la Bible. Vous vous souvenez ? On a parlé de la formation. Et c'est très important de toujours mieux connaître la Bible et de toujours mieux pouvoir l'expliquer à d'autres. Mais qu'est-ce que dit les deux versets que je viens de lire ? À quoi les gens de la rue des Charpentiers, de la rue Népère, de la rue d'Ilzac et des autres, et de tout le quartier, et de nos villages et villes, à quoi verront-ils, sauront-ils que nous sommes les enfants de Dieu, que des disciples de Jésus-Christ, que Jésus-Christ existe, qu'il est bon ? À quoi sauront-ils cela ? À l'amour que nous manifesterons les uns pour les autres. Donc c'est de l'amour visible, puisqu'ils le voient. Donc c'est de l'amour en action. Pourquoi faire le bien ? Parce que l'amour que le bien démontre est une des déclarations les mieux entendues, les plus fortes autour de nous pour faire connaître Jésus-Christ. Pourquoi faire du bien ? Pour faire connaître celui qui est l'auteur du bien. Et pour réjouir aussi ceux qui vont être les heureux témoins du bien que Dieu permet, du bien que Dieu nous aide à accomplir. J'espère que ces trois raisons, quatre selon le classement, nous aident à être encore plus convaincus qu'il nous faut non pas parler du bien, mais faire du bien tout au long de cette journée. Conclusion. Entendons l'appel du Maître. Entendons l'appel à aimer. Et je répète, l'appel n'est pas premièrement à faire. Nous sommes très loin du légalisme, tout en disant qu'il nous faut faire. Mais tout ce texte nous appelle à aimer pour de bon. Entendons l'appel du Maître. Apprenons à aimer. Apprenons donc à servir. Apprenons à accepter de faire ce qui n'est pas peut-être facile, agréable de faire. Apprenons à aimer avec ce que nous avons. Nos 5 pains, nos 2 poissons, quelquefois plus. Par amour. L'esprit de service n'est pas une option. C'est le béaba de la marche chrétienne. Et, bonne nouvelle, c'est le secret du bonheur. 4e question du matin, qui veut être heureux ? Levez la main dans vos têtes. Drôle d'expression, hein ? Il y en a qui ont levé la main, bravo. Jean 13 nous dit comment être heureux. J'en ai vu un qui a levé sa main dans sa tête. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis en conclusion, comprenons notre besoin fondamental de purification. N'en restons pas à nous motiver pour faire du bien, pour mettre la table tout à l'heure, pour faire la vaisselle, pour ranger les tables, pour donner un coup de fil, pour faire une visite. Comprenons notre besoin fondamental de purification. Je bénis Dieu pour l'esprit de service dans notre Église. Je bénis Dieu pour la purification en Jésus-Christ, mais je lui demande encore plus dans sa grâce. Nous avons énormément besoin d'être purifiés. Un des plus grands torts que je vous fais, c'est de ne pas être assez pur. Troisièmement et dernièrement en conclusion, adorons le Maître. Celui qui est venu pour servir, celui qui est venu sauver. Je nous souhaite d'être autant époustouflés que les disciples il y a 2000 ans. Et je nous invite à adorer le Maître. Et du coup, à le suivre dans l'adoration, en le louant et non pas en traînant les pieds. Amen.